Sam travaille, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, deux fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage de Corinne, qui nous a contactés suite à une chronique diffusée sur Fréquence 7. Elle est bibliothécaire et elle avait envie de parler de son métier et de ses évolutions. Dans ce premier épisode, elle voulait dénoncer quelques clichés qui ont la peau dure. Je me suis rendu compte en discutant avec plein de gens que quand on n'est pas du métier, souvent on s'imagine plein de choses. Et en bibliothèque, on est sans arrêt confronté à l'image de « on passe notre temps à bouquiner, c'est tranquille, c'est sympa, on lit des histoires aux enfants ». Alors quand c'est au sein de ma famille, je peux en rigoler et leur expliquer concrètement ce que je fais dans ma journée. Mais quand c'est le tout un chacun et qu'on se prend des petites réflexions, à force ça blesse, vraiment. Et quand je vois les masses de travail que j'ai donné et même le temps bénévole que j'ai donné à des tas d'autres médiathèques, et qu'il faut expliquer, négocier, pour juste faire son taf des fois. Parfois, ça peut me fatiguer. Alors là, c'est pas ma situation actuelle où ça va plutôt bien dans mon job aujourd'hui. Mais c'est une problématique qu'on partage avec beaucoup de collègues, où il y a toujours ce sentiment-là qu'il y a vraiment un grand écart entre nos fiches de poste qui font 5 pages, les attentes, nos connaissances, notre polyvalence, et en face, la gratification du poste. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je voulais être là aujourd'hui et puis aussi pour qu'on revoie l'image des bibliothèques et des bibliothécaires. Parce que c'est drôle les réflexions que j'entends. Il y a toujours cette image de la bibliothécaire, un peu revêche avec son chignon et son tailleur, ses lunettes, et qui passe son temps à faire « chut, chut » et qui aime se plonger dans des romans imbuvables de 800 pages. C'est véridique, hein, j'ai encore des réflexions comme ça. Alors, dans le métier de bibliothécaire, on n'a absolument pas le temps de lire toute la journée. Ben, notamment parce qu'on accueille des classes. Et il ne s'agit pas de lire un livre comme on lirait à son enfant le soir dans le lit. Hein. Là, on parle de l'accueil d'une classe de 28 enfants qu'il faut captiver pendant une heure avec des attentes pédagogiques. Il faut mener une séance avec des apports tout en suscitant l'envie de lire, aussi bien auprès de maternelle qu'auprès de collégiens. Puis, il y a aussi toute la gestion de l'établissement. Les fournitures, le budget, les statistiques. Et puis, gérer le fond. Les livres, ils n'arrivent pas tout seuls sur les étagères. En plus, en général, tout le monde veut le même roman en même temps. Donc on mutualise les achats entre bibliothèques pour pouvoir se répartir les nouveautés. Et c'est pas une organisation si simple que ça. Franchement, là, maintenant, je pourrais aller bosser chez Mondial Relais hein, pour savoir où est un livre. Il est en attente de transfert, il est en réception, il est en retour. Avant, il y avait des bibliobus. Maintenant, ça se fait plus, donc c'est nous qui allons à la bibliothèque départementale où on va échanger à peu près 600 livres. Donc ça veut dire enlever 600 livres de nos rayonnages, aller choisir 600 livres là-bas, remettre ces 600 livres triés et bien rangés dans nos rayonnages avec les 600 fiches informatiques sur l'ordinateur pour savoir où sont les livres. La gestion logistique, c'est ce qui est souvent pas du tout soupçonné par les gens. Il faut savoir trier aussi. Par exemple, cette année, la rentrée littéraire, c'était plus de 700 romans. Évidemment, on n'a pas les budgets ni les moyens matériels d'accueillir tous ces romans. Donc il faut sélectionner. On essaie de voir ce dont le lecteur a envie. Parce que les livres qui ont des prix ne sont pas forcément ceux qui vont être les plus demandés. Les personnes ont des souhaits très variés. Ça va du livre à lire au bord de la rivière, au livre pour oublier ses soucis, au polar où on apprend plein de choses sur la vie des gens d'autres pays. En plus de la logistique, il y a aussi beaucoup de gestion informatique. On ne fait pas juste biper des livres. Il faut créer ce qui va permettre ce bip. En ce moment, on est aussi en train de changer le langage informatique. Les bibliothèques étaient parmi les premières à avoir des bases de données. Au début, c'était les petites fiches papier dans les livres, puis on les a informatisées. Et là, on est en train de muter pour pouvoir être référencé sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, si je recherche une BD et que je tape sur Google, il va me donner comme résultat Amazon et la Fnac. Mais il va pas me dire que la BD se trouve dans la bibliothèque qui est au bout de ma rue. Et c'est donc ce changement de catalogue et de normes informatiques qu'on est en train de réaliser. Donc c'est un travail exigeant où il faut travailler en fin de journée, le samedi, parfois le dimanche. Alors si c'est pour s'entendre dire au repas de famille le dimanche « Oh ça va, toi t'es tranquille », bah certaines finissent par partir. Alors moi j'avoue que même si je fréquente les médiathèques, je connaissais rien à cette profession. Donc après avoir interviewé Corinne, je suis allée me plonger un peu dans l'histoire de ce métier. Il faut savoir qu'en France, les femmes représentent pratiquement 70% des bibliothécaires dans le service public. Cette féminisation, elle n'est pas propre aux bibliothèques, elle concerne plus globalement les métiers dits de service. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Les femmes ont longtemps été bannies de ces lieux de savoir. Pendant des siècles, les bibliothèques ont été des lieux masculins, tenus par des hommes, pour des hommes. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour commencer à voir des femmes exercer cette profession. Dans l'entre-deux-guerres, l'image de la bibliothèque comme le temple de la connaissance s'affaiblit. Et elle apparaît finalement comme un lieu calme où la femme pourra sereinement s'atteler à un travail pour lequel elle s'avère parfaitement adaptée. Je vous cite un passage d'un texte de 1914 qui nous explique cela. Il s'agit d'un travail d'intérieur qui consiste à classer des livres avec soin, à les préserver de la poussière, à mettre de l'ordre dans les rayons, à recopier avec une précision méticuleuse les titres sur un catalogue, à apporter du goût dans le choix des reliures, à servir les lecteurs avec empressement et avec complaisance. C'est dans les bibliothèques dites de lecture publique que les femmes vont petit à petit faire leur entrée, les bibliothèques d'études et de recherche restant du domaine masculin. Les femmes sont alors vues comme les parfaites candidates pour les nouvelles missions de ces bibliothèques, à savoir l'accueil, les enfants, la lecture rurale. On reviendra avec Corinne dans la deuxième chronique sur l'évolution des bibliothèques et plus globalement la désacralisation de ces lieux et de la relation au savoir. Il est aussi intéressant de revenir sur un élément qu'a évoqué Corinne, à savoir la faible rémunération de ces métiers. Si je replonge dans les archives, les inégalités salariales femmes-hommes sont décrites dans l'administration dans son ensemble. Et je vous cite un extrait d'un journal de 1879 qui vaut son pesant d'or. Au point de vue du traitement, l'introduction des femmes dans les services fait réaliser à l'État une sérieuse économie. Les femmes débutent à 1000 francs par an, les hommes à 1500 francs. On n'a pas encore institué de caisse de retraite pour le personnel féminin et il est probable qu'il n'en sera pas institué. Ce personnel se renouvelle assez rapidement, car le mariage oblige généralement les employés à abandonner le service. Séverine Forlani, dans son mémoire d'études intitulé « Femmes, pouvoir et bibliothèques », nous explique que l'embauche des femmes dans les bibliothèques françaises a de ce point de vue permis de justifier la faible rémunération de la profession dans son ensemble.
Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au
On retrouve Corinne qui, après nous avoir parlé du cliché numéro 1 « vous faites pas grand-chose », va nous parler du cliché numéro 2 « c'est un métier qui demande pas beaucoup de compétences ». Ce que je trouve le plus difficile, c'est vraiment le manque de reconnaissance de la profession. Et je ne parle pas de reconnaissance salariale, même s'il y aurait beaucoup à dire, mais de reconnaissance par rapport à la polyvalence et aux compétences demandées. Il faut qu'on sache accueillir tout type de public, être au fait des innovations technologiques, savoir gérer logistique et manutention, savoir créer un lieu accueillant, gérer des partenariats, répondre à des demandes de subventions, faire du management d'équipe, gérer des plannings. On demande aux bibliothécaires des diplômes universitaires. On leur demande d'être polyvalents, être bons aussi bien en informatique, en accueil du public, qu'en littérature. Savoir autant lire un livre, un public de bébé, que de tenir une classe de quatrième. Et la plupart du temps, on est des fonctionnaires sur des petits niveaux de rémunération. Dans l'imaginaire collectif, la bibliothèque, c'est plan-plan, et à la longue, c'est vexant. Cette distorsion entre notre travail et l'image qu'en ont les personnes. Il nous faut toujours expliquer, négocier, se valoriser, expliquer pourquoi on a besoin d'aller se former. Devoir tout le temps expliquer pourquoi notre travail n'est pas si simple que ça. Et devoir se battre, c'est usant à la longue. Il y a des métiers où c'est légitime, où on ne pose pas la question de savoir pourquoi tel métier est complexe. Des fois, ça peut même être un peu humiliant par rapport à l'investissement qu'on y met. Sélectionner des romans, par exemple, ça suppose un vrai savoir-faire. Il faut à la fois être neutre et balayer l'ensemble de la demande des lecteurs, avoir un petit peu de tout pour les satisfaire, savoir composer sans juger de la légitimité, de la valeur des livres, savoir dénicher des pépites qui ne bénéficient pas forcément de publicité. Ce que les gens ne s'imaginent pas aussi, c'est tout ce qui est lié à l'accueil, savoir accueillir. Moi, je tire mon chapeau à ma collègue qui accueille successivement 4 classes pendant une heure, et ensuite ouvre au public de 16 à 18h30 et qui est toujours souriante et patiente. Les métiers de l'accueil, c'est souvent perçu comme « oh, bah, l'accueil, c'est pas compliqué », alors que ça demande de savoir écouter, savoir reformuler pour bien comprendre la question, savoir bien répondre. C'est tout un art et ça fait partie des métiers de l'accueil et des métiers de femmes en général qui sont assez vite dénigrés. Ça peut être une personne qui veut un polar pour mieux comprendre les enjeux en Amérique du Sud aujourd'hui, comme quelqu'un qui voudrait un roman du terroir mais qui ne soit pas trop triste. Il faut savoir répondre à toutes ces demandes-là. Savoir discuter avec diplomatie pour comprendre ce que les personnes souhaitent vraiment et avoir une grande patience. Au XIXe siècle, les métiers de service commencent à se développer et à offrir des débouchés aux femmes parce qu'il est socialement établi à l'époque que le rôle des femmes est d'être en premier lieu au service des autres, à commencer par leur famille. Donc, enseigner, soigner, assister apparaissent comme des activités extérieures convenables pour les femmes, puisque similaires à leurs tâches domestiques. Ces métiers étaient censés leur permettre d'exercer très naturellement leurs qualités tout aussi naturelles. Ça s'appelle le mécanisme de naturalisation ou d'essentialisation, c'est-à-dire le fait de considérer que, par nature, les femmes auraient des compétences spécifiques. Et ce processus de naturalisation, il a pour conséquence la dépréciation de ses compétences. C'est naturel, donc c'est pas vraiment une compétence, et ça se paye pas cher. Les métiers qui sont qualifiés de naturels pour les femmes, aide à domicile, assistante maternelle, aide-soignante, font pas vraiment partie des métiers les plus rémunérateurs. Et pourtant, ils figurent parmi les plus utiles. Il faut aussi parler de l'invisibilisation de ce type de travail. On s'aperçoit que très souvent, dans les métiers attribués aux femmes, le travail bien fait, c'est celui qui ne se voit pas, contrairement aux métiers dits masculins. Construire une maison, fabriquer un meuble, ça se voit. Veiller à ce qu'un enfant grandisse de manière équilibrée en ayant confiance en lui, c'est moins visible. On sait aussi que le tact et la discrétion font partie des attendus de bon nombre des métiers dits féminins. Et par définition, le tact et la discrétion, quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Si on prend un autre exemple, celui du ménage, ça ne se voit que lorsque ce n'est pas fait ou mal fait. Sans compter qu'on ne veut pas voir ce ménage se faire. Si on regarde l'organisation sur les bateaux de croisière, où l'entretien des locaux se fait à un rythme inhumain lors des escales pour rester invisible, ou bien le ménage dans les bureaux qui est réalisé avant ou après les heures de présence des salariés. Si on revient au métier de bibliothécaire, Corinne nous a bien montré tout ce qui est invisible, comme la partie logistique de son travail, mais aussi l'ensemble des compétences nécessaires pour assurer l'accueil du public. la patience, l'écoute, le tact, la disponibilité, la connaissance littéraire, mais qui doit rester discrète pour ne pas disqualifier le public. Dans 15 jours, on retrouvera Corinne, qui nous parlera des évolutions de son métier et de comment elle trouve des ressources pour continuer à le faire avec enthousiasme. Si vous aussi, vous avez envie de confier à l'association Sam Travail un épisode de votre vécu professionnel, qu'il soit agréable ou difficile, faites comme Corinne, écrivez-nous à contact@frequence7.net. Je viendrai vous interviewer, tout en garantissant bien sûr votre anonymat. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique, et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail. Mmh.